France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, on prend l'air dans le 5-6. Ce matin, plongeons engagés dans l'océan. Dans quelques minutes, la chronique littorale nous emmène à la rencontre d'une défenseuse active de la mer qui pratique également l'apnée. Notre invité déjà debout, à 6h moins le quart, gère un office de tourisme en Haute-Savoie, en pleine effervescence à l'approche des vacances d'hiver. Et puis juste avant 6h, c'est au jardin qu'on savoure notre café philo. Il sera question de nature et de pensée dans l'actualité aussi. Dans le 5-6, on passera en revue une première fois vos journaux dans quelques minutes. Charline Vanhoenacker a testé pour nous une intelligence artificielle française qui a quelques ratés, vous verrez. Et puis Zoom à 5h40 sur l'autre procès de Dominique Pellicot. Bon réveil sur France Inter, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Et le journal, ça commence avec le journal de Sarah Derce. Bonjour Sarah.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
C'était sa merveilleuse amie.
Les mots de Mick Jagger hier sur Instagram après la mort d'un des visages du Swinging London et égérie des Rolling Stones. La chanteuse britannique Marianne Faithfull est morte hier à 78 ans. Une vie d'excès qui lui auront parfois coûté cher, Richard Place.
Sex and drugs and rock and roll, elle incarnait parfaitement cette phrase. Mais la drogue aura malheureusement pris la plus grande part dans sa vie. Dans une interview à la BBC il y a 6 ans, Marianne Faithfull disait qu'elle ne voulait pas être un modèle pour sa petite fille. J'espère qu'elle vivra la vie que j'aurais rêvé d'avoir, disait-elle. Faithfull devient célèbre à 16 ans avec cette chanson, la première écrite par Mick Jagger et Keith Richards. As Tears Go By est un succès, la jeune femme tombe amoureuse du chanteur des Rolling Stones. Avec Jagger, elle côtoie Jimmy, Bob ou Andy, c'est comme ça qu'elle appelait Hendrix, Dylan et Warhol. La réalité est moins joyeuse, le quotidien de Faithfull, c'est la drogue. Quand ils se séparent en 1970, elle sombre, elle vit dans la rue, tente de se suicider, fait de la prison, loin des fastes du show business. Elle chante à nouveau à la fin des années 70, sa voix est transformée, ses textes introspectifs. Cette voix cassée devient sa marque de fabrique, elle sort des albums régulièrement, accompagnée d'artistes comme Nick Cave, Damon Albarn ou PJ Harvey. De sa période avec les Rolling Stones, elle disait « Je savais qu'ils se servaient de moi, mais c'était pour une bonne cause ». Londres, Richard Place, France Inter.
Une autre icône du rock, Patti Smith, victime d'un malaise, s'est effondrée hier sur scène lors d'un concert au Brésil. Malgré cette alerte, la chanteuse de 78 ans est revenue sur scène en fauteuil roulant pour s'excuser auprès du public.
Aux États-Unis, pas de survivants après la catastrophe aérienne au-dessus de Washington la nuit dernière.
67 morts dans la collision entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire et ce matin, toujours beaucoup d'interrogations. Les deux boîtes noires des deux avions ont été retrouvées, l'enregistreur vocal du cockpit et les données de vol. Éléments clés pour l'enquête sont en cours d'analyse. Mais ce qui est déjà avancé, Loïc Loury, c'est une pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui pourrait au moins en partie expliquer ce drame.
L'année dernière, le Congrès avait voté en faveur de l'ouverture prochaine à l'aéroport Ronald Reagan de 5 nouvelles lignes longue distance, malgré les mises en garde de plusieurs élus sur un risque accru d'accident dans un espace aérien déjà saturé. La catastrophe qui vient de se produire semble leur donner raison. Mercredi soir, compte tenu de l'heure et du trafic, il n'y avait pas assez de personnel dans la tour de contrôle de l'aéroport, selon un rapport interne de l'autorité de régulation. Un opérateur seulement contre deux en temps normal s'occupait ainsi des hélicoptères, tout en donnant des instructions aux avions qui atterrissaient et décollaient. Et le problème n'est pas nouveau. À Washington, comme partout dans le pays, les contrôleurs qualifiés, depuis des années, ne sont pas assez nombreux, forcés de faire des journées à rallonge. Un point que les enquêteurs n'ont pas évoqué, leur rapport est attendu d'ici un mois.
Loïc Loury à New York pour France Inter. Et sans attendre les résultats de l'enquête, Donald Trump a mis en cause ses prédécesseurs démocrates et programmes faisant la promotion de la diversité dans le recrutement, notamment des fonctionnaires du régulateur américain de l'aviation. 3 otages israéliens et 5 thaïlandais ont été libérés par le Hamas hier à Gaza en échange de 110 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Après de nombreuses tensions hier lors du processus d'échange de captifs, le prochain est prévu vue demain. Après 13 ans de guerre en Syrie, le président par intérim a promis hier de préserver la paix civile et de tenir une conférence de dialogue national. C'est la première fois qu'Ahmad al-Shaari s'adresse à la nation dans une brève allocution télévisée. Près de deux mois après avoir renversé le dictateur Bachar al-Assad, il est à la tête d'une coalition de factions rebelles islamistes.
5h05 sur France Inter. Cette question, s'approche-t-on en France de la version finale du budget ?
C'est tout l'enjeu de la commission mixte paritaire, 14 parlementaires et la d'abord depuis hier, amende, supprime, négocie pour essayer de parvenir à un compromis et éviter au gouvernement une nouvelle censure. La partie recette du budget a été adoptée hier, reste la dépense publique. Les travaux reprennent ce matin avec entre autres un dossier sensible, le budget de l'aide médicale d'État pour les soins des étrangers en situation irrégulière. La garde à vue du chauffeur se poursuit en Eure-et-Loir après l'accident de car scolaire qui a fait un mort hier matin, une lycéenne et 20 blessés près de Châteaudun. Le conducteur âgé de 26 ans a effectué un test salivaire au stupéfiant qui s'est révélé positif. Il a été placé en garde à vue. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a assuré hier plus de contrôle, plus de dépistage des chauffeurs, notamment sur les stupéfiants.
Il est indispensable de multiplier les contrôles. J'en ai parlé avec le ministre de l'Intérieur et nous allons mettre en place dans les jours qui viennent des contrôles approfondis. Bien sûr, saisir également toutes les entreprises de transport pour qu'elles puissent le faire de manière concomitante. Et puis, travailler sur des systèmes qui, un peu comme les éthylotests à une certaine époque et notamment obligatoires depuis 2015, ont réussi à prévenir et les contrôles, notamment sur la consommation de l'alcoolisme qui a été pendant de grandes années un fléau. C'est techniquement trouver la possibilité d'opérer un contrôle en amont et qu'une personne qui est sous l'emprise de stupéfiants ne puisse pas faire démarrer son bus, son car ou son camion, son véhicule tout simplement.
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, hier sur France Info, qui assure donc plus de contrôles d'ici quelques mois. Environ 200 personnes ont manifesté hier soir devant la préfecture de la Moselle à Metz en soutien à la jeune fille de 14 ans, interpellée mercredi dans son collège avant d'être reconduite à la frontière en Belgique. La ministre de l'Éducation nationale a rappelé à l'ordre les recteurs sur les interventions policières interdites dans le cadre scolaire. L'attente interminable des habitants de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de la Loire-Atlantique. Redon attend toujours une crue record de la Vilaine. L'eau monte, mais moins que prévu. Le pic n'est pas encore atteint. Vigilance rouge maintenue dans les trois départements.
Et la DSL ne sera bientôt plus qu'un souvenir.
Le réseau cuivre qui permet de se connecter à Internet grâce à une prise ADSL va être déconnecté aujourd'hui dans 162 communes, ce qui concerne environ 20 000 clients. Une première étape d'une transition progressive vers la fibre optique. Prochaine étape dans un an. Et pas de finale au mondial de handball pour les Bleus, c'est terminé. Ils se sont inclinés hier soir 31-28 face aux Croates à Zagreb en demi-finale. Et puis la star française du basket, Victor Wembanyama, qui évolue désormais en NBA avec les Spurs, a été sélectionné hier pour disputer son premier match des étoiles, le All-Star Game, aux côtés de Tony Parker. Le All-Star Game, c'est le 16 février prochain à San Francisco.
Et les Bleus du rugby rêvent de décrocher un nouveau trophée.
C'est aujourd'hui le grand début du tournoi Destination et c'est la France qui ouvre le bal ce soir au Stade de France face au Pays de Galles, avec cette année sur le terrain le retour de son capitaine Antoine Dupont. Match à 21h15.
C'était le journal de Sarah Ders.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Attention aux crues, Elodie Calac.
Plus calme et plus froid. Sur le nord-ouest et au nord de la Seine, les crues se poursuivent. La vigilance reste maximale sur Ille-et-Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique. Ce matin, ça s'arrange sur les Pyrénées et le quart sud-est après les pluies de la nuit parfois intenses en Méditerranée. Il reste quelques pluies du sud du massif central vers la Provence, les Alpes et le Jura. Un peu de neige sur le relief, attention aux avalanches. Des éclaircies reviennent sur le Languedoc-Roussillon avec Mistral et Tramontane. Du sud-ouest au nord-est, beaucoup de grisailles ce matin. On peut espérer quelques éclaircies sur le nord-est et le centre-val de Loire cet après-midi. Plus belle vers l'Aquitaine et le Midi Toulousain. De nouvelles pluies gagnent le nord-ouest jusqu'à la région parisienne et au Hauts-de-France cet après-midi. Quelques flocons peuvent se mêler à la pluie entre la Normandie et le bassin parisien. Il fait plus froid, retour de petites gelées sur un bon quart nord-ouest ce matin. Cet après-midi, 5 degrés à Metz, 7 à Lille, Paris, Angers, Lyon et Rodez, 11 degrés à Brest et Bordeaux, 14 à Marseille et 16 à Bastia.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h09, à suivre sur Inter, une militante qui lutte contre l'exploitation minière des fonds marins. Rencontre à suivre dans les chroniques littorales. Se faire justice soi-même, une pratique de plus en plus répandue. Analyse du phénomène dans la chronique d'où ça sort. Et puis, les vaches pondent-elles des œufs? Réponse dans la chronique de Charline Vanhoenacker qui chaque jour explose les faits. Ça sera à 5h25. Mais avant tout ça, musique avec Sam Austin, un jeune artiste américain originaire de Detroit aux États-Unis. Il chante l'amour et les saisons avec ce titre Seasons. Seasons de Sam Austin, il est 5h12 sur France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez une femme engagée pour l'océan.
En la personne de Anne-Sophie Roux, Marion. Anne-Sophie Roux, bonjour.
Bonjour.
Anne-Sophie Roux, alors vous êtes une activiste mer et océan, c'est ça?
Exactement, oui.
Alors qu'est-ce que ça veut dire quand t'es un activiste mer et océan?
Globalement, je mène des campagnes politiques pour la protection de l'océan, principalement dans les eaux internationales. Mon gros sujet, c'est l'exploitation minière des fonds marins, qui est une industrie qui aurait des conséquences irréversibles pour l'océan, pour le climat.
Vous avez obtenu une victoire en Norvège dernièrement.
Hein. Oui, exactement. On a réussi à empêcher le démarrage de cette industrie dans l'océan Arctique. Et ça, c'était franchement inespéré parce que on se battait contre le gouvernement norvégien et les lobbies miniers qui sont extrêmement puissants là-bas. Et c'est l'aboutissement de 2 ans de campagne à la fois avec des scientifiques, avec des parlementaires européens, des parlementaires français, des journalistes. Enfin, vraiment, c'est une victoire très, très collective. Et ouais, on a été hyper, hyper contents d'avoir cette victoire parce que c'est assez rare quand on se bat pour les questions climatiques, environnementales ou océaniques. Donc, quand on a des victoires, il faut les célébrer. Quoi.
Alors, quand vous dites « on », vous n'êtes pas toute seule.
Oui, exactement.
Vous fédérez autour de vous d'autres activistes pour la mer et l'océan, c'est ça?
Ouais, exactement. Sur les sujets, en tout cas, des grands fonds marins, on a vraiment une coalition sur tous les continents de scientifiques, d'activistes, d'ONG, de personnalités politiques qui ont fait des abysses et des grands fonds marins un peu leur priorité. Et ouais, en Europe et en Norvège, on a mobilisé toute cette galaxie, on va dire, de personnes et d'activistes pour réussir à avoir cette victoire. Et c'était franchement inespéré.
Donc bravo.
Merci.
Alors, vous êtes aussi plongeuse et plutôt apnéiste.
Les deux, carrément. S'il n'y avait pas autant d'urgence pour l'océan, j'avoue que j'aimerais bien passer ma vie à plonger sous l'eau. Mais malheureusement, il faut aussi passer pas mal de temps dans les sphères politiques pour essayer de protéger l'océan. Mais effectivement, ouais, j'adore la plongée. Bah, évidemment, je suis fascinée par l'océan.
Vous plongez jusqu'à combien en apnée?
En apnée, pas très profond. Je crois que mon maximum, ça doit être 15 mètres. Donc je ne suis vraiment pas...
c'est un début, quoi.
Oui. En apnée, non, je ne suis vraiment pas... Je ne vais pas assez dans les abysses pour le coup. En plongée, j'y suis encore jamais allée, même si ça c'est un rêve.
Que se passe-t-il quand vous plongez, vous, l'activiste, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à 15 mètres?
Un sentiment d'émerveillement déjà incroyable, parce que bah, l'océan, enfin, c'est vraiment un autre monde, un monde parallèle qui est juste fascinant. C'est la beauté, c'est l'émerveillement, et puis c'est aussi le calme, un genre de côté un peu méditatif d'être sous l'eau, et puis de gérer sa flottabilité avec ses poumons, avec sa respiration. C'est vraiment un côté ressourcement énorme. Et puis aussi, pour moi, c'est aussi me rappeler pourquoi je me bats. Au final, oui. D'aller, que ce soit sur l'eau, en naviguant ou sous l'eau, en faisant de la plongée, c'est des moments pour moi pour me ressourcer et pour me redonner de l'énergie et du courage pour me battre, pour protéger ces écosystèmes. Quoi.
C'est un long chemin pour faire comprendre qu'il faut préserver l'océan.
Ah ouais, complètement. Parce que loin des yeux, loin du cœur, c'est vraiment l'océan qui représente cette maxime. Et en fait, on ne se rend pas compte, nous, terriens, mais on dépend directement de la bonne santé des écosystèmes marins, ne serait-ce que pour la stabilité du climat,
parce que
pour
c'est
l'oxygène
notre futur.
Qu'on respire, exactement, pour le transport maritime, pour l'alimentation, pour absolument tout. Et du coup, c'est assez compliqué de faire comprendre ce lien qui nous unit à l'océan, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, il faut passer par de la vulgarisation de la parole scientifique, et ça, c'est un sujet qui nous occupe énormément en tant qu'activistes, c'est essayer d'expliquer la parole des scientifiques pour la faire comprendre au plus grand nombre, quoi.
Vous êtes plutôt dans le plaidoyer.
Exactement. En fait, ça va de la communication, la vulgarisation scientifique, l'expliquer sur les réseaux sociaux et transformer ces combats-là en victoire politique, que ce soit en faisant passer des lois, des résolutions au Parlement européen, ou en empêchant le fait de passer des lois sur la question norvégienne pour empêcher la destruction de l'océan. Donc ça prend plein de formes différentes, mais globalement, oui, c'est ça, c'est du plaidoyer.
Vous n'êtes pas vraiment une terrienne, vous êtes plutôt une mérienne, Anne-Sophie
oui,
Roux.
Oui, clairement, je me sens beaucoup plus connectée à l'océan qu'à la Terre.
Merci à vous, Anne-Sophie Roux.
Merci beaucoup.
Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée, José-Emmanuel Lamarque. Il est 5h16.
Le 5-6 sur France Inter.
Les unes de la presse ce matin sont très variées. Il y a un magnifique portrait en une de Libé, photo noir et blanc de 1981 d'un visage de femme. Femme blonde au regard doux, écharpe autour du cou. So long Marianne, c'est le titre. Adieu Marianne. Hommage à la sublime Marianne Faithfull, morte hier à 78 ans. Une figure emblématique de la pop britannique dont on va reparler à 7h20 avec Mishka Assayas sur Inter. Le Parisien, lui, raconte ses mutuelles qui remboursent n'importe quoi. Naturopathie, luminothérapie, mésothérapie, je ne sais pas ce que c'est. Les Échos regardent avec envie peut-être la croissance américaine qui prend le large. Et puis chaque journal assume sa ligne. L'Humanité affiche un portrait du patron d'LVMH, Bernard Arnault, sur fond rouge et fustige l'indécence, je cite, des grands patrons sur les impôts puisqu'il s'oppose à la hausse de l'impôt sur les sociétés. Dans son couloir aussi, le Figaro dénonce les influenceurs algériens qui profiteraient de notre droit. La justice a invalidé une procédure d'expulsion, décision qui, pour le journal, complique l'action du ministre de l'Intérieur, je cite, déterminé à lutter contre les prêcheurs de haine. Bruno Retailleau, qui est aussi en une de l'opinion dans le dessin de cas qu'il montre des chefs sur le ring. Laurent Wauquiez est donc face à lui, Bruno Retailleau, en tenue de boxe. Juste à côté, le titre de l'article nous annonce la guerre des chefs qui vient à droite. Des femmes au sommet en une des magazines qui sortent aujourd'hui pour égayer vos week-ends. Une fille de pêcheur au rouge à lèvres carmin en une des éco-week-end. Titre, la tête de la tech. Cette sétoise anciennement proche de Mark Zuckerberg est la PDG d'Instacart, une grande entreprise de la tech américaine. La française est devenue une star de la Silicon Valley. Et sur la couverture du Parisien Magazine, c'est Viva Frida, photo auréolée de la peintre Frida Kahlo, presque souriante. L'artiste mexicaine est devenue une icône, analyse le magazine. Et puis à la une de vos journaux, il y a aussi des hommes dans la joie de les revoir, clame l'équipe, avec deux portraits, celui d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack, les deux rugbymen en bleu, également en photo en une du Figaro. Ils n'ont plus été associés en charnière depuis 17 mois et les revoilà donc ensemble pour le tournoi de rugby des Six Nations, coup d'envoi de ce match France-Galles à 21h15. À 5h19, comme tous les matins à cet horaire, un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, l'auto-justice, ou le fait de se faire justice soi-même. Cette pratique prend de plus en plus d'ampleur au sein de la société française. Mais Cyril, d'où ça sort ?
Pour savoir d'où vient cette notion d'auto-justice, plongeons-nous dans l'Ancien Testament.
Ah oui.
Et plus précisément dans le Code de l'Alliance de la Torah. Le Code de l'Alliance, c'est le plus ancien recueil de lois de l'Ancien Testament. Livre de l'Exode, chapitre 21. On peut lire ceci. « Si un malheur arrive, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » C'est ce qu'on appelle la loi du talion.
Oui, mais cette loi du talion, en fait, de l'Ancien Testament, c'est un héritage déjà.
Oui, un principe similaire existait déjà dans le code d'Amurabi, un texte de loi babylonien qui remonte à 1750 avant Jésus-Christ notre Sauveur. Figurez-vous donc, c'était il y a 3775 années. Ce code d'Amurabi est un des premiers codes juridiques de l'histoire. Il avait vocation à unifier la société et à donner des règles précises de réciprocité entre offense et sanction, donc à éviter les représailles disproportionnées. Personne ne parle à ce moment-là de se faire justice soi-même, mais cette loi du talion ouvre la voie dangereuse, diront certains, vers un risque d'escalade, alors même qu'elle cherche à l'éviter. Un risque que Jésus a voulu refermer. Ça se passe lors d'un sermon sur le mont des Béatitudes, sur les hautes collines surplombant la mer de Galilée. Un sermon désormais connu des catholiques comme le sermon de la sur la montagne. Jésus y enseigne comment se comporter pour être un véritable disciple. Selon l'évangile de saint Matthieu, il dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Et si vous présentez l'autre joue, a priori, pas de risque d'auto-justice. Alors, est-ce que l'origine de la loi du talion a été dévoyée? La justice seule doit-elle rendre justice? Quels sont les risques de l'auto-justice? Doit-on pour autant tendre l'autre joue? Pourquoi veut-on se faire justice nous-mêmes aujourd'hui?
Les réponses dans le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter sur le site de France Inter. C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Tous les deux reviennent à 16h cet après-midi. Il sera entre autres question du succès fulgurant d'un groupe de rap en 1995, c'était NTM. 5h21 sur Inter, rien à voir. Tout de suite, on décolle avec la pop douce et poétique de Laura Cahen, Fusée.
Je ne veux pas te revoir.
de Laura Cahen sur son album De l'autre côté. Elle est en tournée en ce moment en France, mais aussi en Angleterre et en Allemagne.
France Inter.
Et à 5h25, le plaisir de retrouver Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10, elle explose les faits. Et mardi dernier, elle revenait sur cette intelligence artificielle chinoise, DeepSeek, qui vient de ringardiser ChatGPT, l'intelligence artificielle française. Lucie, elle est déjà HS. Elle a fermé 2 jours après sa mise en service.
Elle s'appelait Lucie et après plusieurs bugs, l'entreprise ne s'est pas acharnée. Au bout de 48 heures, ils l'ont débranchée. Comme quoi dans ce pays, quand on veut, on peut appliquer le droit à mourir dans la dignité. Alors, c'était le ChatGPT français, LucieChat. Donc, la dernière fois qu'on a appelé un projet Lucie, c'était un film de Luc Besson et une chanson de Pascal Obispo. C'est donc bien une IA française. Une IA qui n'aime pas la réussite. Et son sort n'est pas très équitable. Je rappelle que François Bayrou a bugué dès le lendemain de sa nomination. Pour autant, on ne l'a pas débranché au bout de 48 heures. Alors ici, que s'est-il passé? Dès l'annonce de sa mise en service, Lucie a été mise à l'épreuve par les internautes. D'abord en lui soumettant un simple calcul. Elle donne 2 résultats différents et aucun des deux n'est le bon. Avec une telle performance, la seule personne qu'elle aurait pu remplacer, c'est Bruno Le Maire à l'économie. Ensuite, elle atteste de l'existence des œufs de vache. Donc, soit elle est vraiment con, soit elle est en lien avec le service génétique de la FNSEA et elle a des infos dont on ne dispose pas encore. Mais là où DeepSeek et ChatGPT font flipper tout le monde, avec le site chat, on se marre. Et en ça, c'est une réussite. Ça détend tout le monde. Alors, sauf les pouvoirs publics qui ont financé le projet. Parce qu'il était prévu que Lucie soit utilisée dans l'enseignement,
oui,
dans le courant de cette année. Voilà. Alors qu'elle donne les mêmes réponses qu'un prof à 2 doigts de la crise de nerfs. Mais puisque je vous dis que la racine carrée d'une chèvre est de 1. Voilà, ça, c'est vraiment typique d'un enseignant en burn-out. Alors, mais le pire bug des 48 heures de vie de Lucie, c'est quand un petit malin a demandé à Lucie de parler comme Adolf Hitler, ce à quoi elle a répondu, c'est véridique.
Nous devons éliminer les juifs de la société, les soumettre à des travaux forcés et les exterminer.
C'est ChatGPT en fait. Voilà. Alors c'est sûr que pour l'utiliser dans le domaine de l'éducation, c'est pas top. En revanche, elle peut se présenter comme candidate RN au municipal. Alors les créateurs de Lucie expliquent qu'ils l'ont mise en ligne dans une version pas aboutie, sans les garde-fous qui accompagnent généralement une IA. C'est-à-dire qu'ils l'ont mise en service prématurément. Donc si on résume, l'IA française a 2 ans de retard, parce qu'elle est sortie trop tôt maintenant. Quand Dominique Seux vous dit que les 35 heures, ça freine l'innovation, alors résultat, Lucie Chat raconte n'importe quoi, mais avec énormément d'aplomb. Donc c'est bien une IA à la française, quoi. Si, si, parce qu'en plus, la société à l'origine du projet promettait un outil basé sur 3 fondements, transparence, confiance, efficacité. Et ça, c'est typiquement français d'annoncer 3 grandes devises en 3 mots et de constater que ça ne fonctionne pas du tout. Et puis, vous avez vu son avatar, l'image qui a été choisie pour la personnifier. Et oui, évidemment, la seule intelligence artificielle qui raconte n'importe quoi, il faut qu'elle soit présentée par une femme et blonde en plus. Le monde de la tech, hein, et sa fameuse énergie masculine. Alors, je sais ce que vous pensez depuis le début de cette chronique, elle est gonflée, c'est pas la Belgique qui nous sortirait une telle innovation. C'est vrai, c'est vrai. Mais vu que pendant 20 ans, vous avez pris les Belges pour des débiles, je savoure un petit peu ce moment où le con de l'histoire, c'est votre intelligence. Alors, je nous souhaite de réussir à la mettre en service, bien sûr, car déjà, on en tire un bel enseignement. L'IA à la française, c'est celle qui nous rappelle que l'erreur est humaine, même quand elle ne l'est pas. Putain, j'aurais jamais dû confier la chute de cette chronique à Lucie.
Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi à 9h45 et demain samedi à 19h20 pour Bistroscopie. Dans une poignée de secondes, le journal.
Ce dimanche, le chef Emmanuel Renaud nous livre tous ses secrets.
Dimanche, 11h, François-Régis Gaudry.
Moi, j'aime le travail, je suis besogneux, j'aime bosser. Donc, c'est plaisant pour moi de me lever le matin pour aller travailler. C'est même pas du travail, c'est que du plaisir.
Aussi discret que respecté par ses pairs, engagé, hyperactif, le chef 3 étoiles de Flocon de Sel à Megève nous raconte sa passion de la montagne et il nous fait goûter sa cuisine qui tutoie les sommets.
Les masterclass dont on va déguster.
Avec le chef Emmanuel Renaud, c'est ce dimanche. À partir de 11h.
5h29 sur France Inter. Et le voilà avec sa casquette, prêt à prendre l'antenne dans une demi-heure. C'est Ali Badou qui
et
vient de me rejoindre.
Et éviter la pluie surtout.
Et bonjour Ali, c'est vrai aussi.
Au programme de ce 31 janvier à 6h20, il sera question du livret A, le placement préféré des Français qui passe demain de 3 à 2,4%. Alors où placer nos économies? C'est la question que vous poserez, Marion, à Anne-Sophie Alsif, qui est économiste et professeure à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. À 8h moins le quart, le débat éco autour du budget 2025 et cette question, peut-on courir le risque de la censure? Et puis à 8h20, le grand entretien avec le démographe Hervé Lebras. Il publie « Il n'y a pas de race blanche chez Grasset ». Submersion migratoire, grand remplacement, beaucoup de questions dans le débat public sur lesquelles on reviendra avec lui.
À tout à l'heure, Ali.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h30. Le journal, Sarah Ders, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Les agents de l'Office français de la biodiversité lancent aujourd'hui un mouvement de grève inédit.
Car rares, les agents de l'OFB sont en colère et attendent un soutien clair des pouvoirs publics. Ces inspecteurs contrôlent par exemple l'usage des pesticides dans les exploitations agricoles. Contrôle qualifié d'humiliation par le Premier ministre François Bayrou lors de son discours de politique générale. Des propos qui ne passent pas pour Éric Gourdin, il est syndiqué inspecteur de l'environnement à l'OFB.
Est-ce qu'il nous soutient, le Premier ministre, ou est-ce qu'il veut plus de police de l'environnement? Est-ce qu'il veut plus que la loi et les règlements soient respectés sur le territoire? Est-ce que vous voyez le ministère de l'Intérieur, quand la police, des fonctionnaires de la police nationale sont blessés ou sont mis à l'index, ils sont pas défendus par le ministre de l'Intérieur? Bah, moi, je crois que si. Hein. Donc, le minimum, c'est qu'on ait un soutien de sa part. C'est le minimum qu'on est en droit d'attendre. Hein. Ça fait un an que ça dure, que tous les agents courbent les chines et ne disent rien quand ils subissent des attaques sur leurs bâtiments, qu'on vient leur déposer des tonnes de lisier, rentrer dans les fractions en cassant les portes, en cassant les voitures, menacer des agents. Depuis un an, vous imaginez la pression que les collègues subissent sur le terrain? C'est plus possible, il faut que ça cesse, quoi.
Éric Gourdin, membre de l'OFB au micro de Selma Rich, d'ici Berry, France Bleu. Après Kinshasa, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, désormais à Kigali, au Rwanda, pour demander le retrait des troupes rwandaises de l'est de la République démocratique du Congo, où le groupe rebelle M23 et des forces armées rwandaises continuent de progresser. Il contrôle déjà une grande ville, Goma, et déclare vouloir marcher sur la capitale de la RDC. Un texte de compromis sur le budget de la France va-t-il être élaboré par les 7 sénateurs et les 7 députés. C'est tout l'enjeu de la commission mixte paritaire qui a suspendu ses travaux hier soir, reprise des discussions ce matin à 8h30. La partie recette du budget a été adoptée, reste la dépense publique. Sur les propositions des socialistes, rien n'a été retenu, a assuré hier le député insoumis Éric Coquerel, alors que le PS lui revendique des victoires.
L'attente interminable des habitants de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Atlantique.
Vigilance rouge maintenue dans les 3 départements. Redon attend toujours une crue record de la Vilaine. L'eau monte, mais moins que prévu. Le pic est attendu aujourd'hui en fin d'après-midi, Valentin Dunat.
Toujours très intense, hein, le débit de la Vilaine. Thérèse observe incrédule ce fleuve qu'elle connaît depuis son enfance.
C'est la désolation pour ceux qui ont les caves inondées et les maisons. C'est triste. Voilà, je vois ça comme ça.
Dans la ville, quelques rues, commerces et habitations sont touchées et le niveau d'eau ne descend toujours pas. Il devrait atteindre 5,35 m dans les heures qui viennent. À quelques kilomètres de là, à Sainte-Marie-de-Redon, au milieu des marais, Gilles promène son chien.
Cette partie-là, c'est fait peau. Il y a tellement plus des quantités phénoménales dans le nord. Bah, ça descend ici. Forcément, ça arrive sur Redon. On est habitué à voir le marais plein, quoi. Mais à ce point-là, quand même, ça fait beaucoup, quoi. Ils repoussent la date du pic tous les jours, pratiquement. Donc,
pourquoi?
Bah, c'est compliqué d'évaluer les quantités d'eau qui peuvent venir de l'amont. Bon, on arrive, je pense qu'on en voit le bout, mais c'est pas encore fini. Hein.
Bon, merci beaucoup.
Bah, je vous en prie.
Bonne balade.
Merci.
Selon le président de l'agglomération de Redon, la crue sera comparable à celle de 1995, mais loin du record historique de 1936, où l'eau avait atteint 5,46 m.
Valentin Dunat avec les moyens techniques de Florent Layani. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, devrait se rendre à Redon demain. Et pas de reprise du trafic SNCF avant lundi au moins entre Rennes et Nantes et entre Rennes et le Sud-Bretagne. Un face-à-face tendu hier entre Nicolas Sarkozy et la patronne du géant français nucléaire Areva, appelée à témoigner au procès des soupçons de financement libyen de la campagne de l'ancien président en 2007. Anne Lauvergeon qui s'est expliquée sur un accord nucléaire avec la Libye, accord qui a constitué, selon l'accusation, une des contreparties au financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. trois espèces de moules d'eau douce menacées d'extinction ont été identifiées dans la Seine, à Paris. C'est l'Office Génie écologique qui révèle le résultat de ces prélèvements. Pour le Bureau d'experts des milieux naturels, c'est la preuve que la qualité de l'eau de la Seine s'est améliorée. Une icône des années 60, une icône du Swinging London. La chanteuse et actrice britannique Marianne Faithfull est morte hier à l'âge de 78 ans. Elle fut notamment l'égérie des Rolling Stones, marquée par son tube As Tears Go By. Et puis, le rêve d'une finale au Mondial de handball s'est envolé pour les Bleus. C'est terminé. Ils se sont inclinés hier soir 31-28 face aux Croates à Zagreb en demi-finale. Lyon continue en revanche sa route en Ligue Europa de football, qualification pour les huitièmes de finale, malgré le match nul, un partout concédé aux Bulgares à domicile.
C'était le journal de Sarah Ders. Bonne journée Sarah, ou plutôt bonne nuit. La météo de ce vendredi, vous le disiez Sarah, attention aux crues encore sur l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan. Le temps sera plus calme aujourd'hui, mais aussi plus froid au nord. Encore un peu de pluie et de neige sur les Pyrénées à partir de 800 mètres, puis il fera plus sec cet après-midi. Sur l'est de la région PACA, il pleut ce matin avec de la neige en journée sur les Alpes du Sud à partir de 1400 mètres. Encore de la pluie, mais sans excès sur le nord-ouest et peut-être quelques flocons de neige. La Tramontane souffle jusqu'à 70 km/h en rafale. Partout ailleurs, temps plutôt sec mais gris ce matin. Quelques ondées cet après-midi des Alpes au nord du Jura avec de la neige au-dessus de 800 mètres. Il pleuvra ce soir sur la Nouvelle-Aquitaine. Côté thermomètre, les gelées reviennent. Moins 1 à 10 degrés ce matin et pour cet après-midi, prévoyez 5 à Nancy, 7 à Paris, Strasbourg, Lille, Clermont et Tours, 9 à Cherbourg et Toulouse, 11 à Brest et Bordeaux, 12 à Biarritz et Perpignan, 14 à Marseille et 16 à Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
Et il est temps de plonger dans la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Ce matin, vous nous parlez d'un album très étrange, un disque d'outre-tombe.
D'outre-tombe, deux même, puisqu'il s'agit du second album posthume de Mac Miller. Décédé en 2018, le rappeur américain n'en finit pas de sortir des inédits. Dernier en date, donc ce disque fumant. You can feel it. You can feel it. Vibration. Okay, I went sleep faded and I woke up invisible. Keep the ingredients, but I got the kitchen full. Thoughts are cynical, actions unpredictable. Supermodel bitches hold auditions in my swimming pool. Do you have a destination?
Yes.
Je me suis endormi, fané, je me suis réveillé. Invisible. D'emblée, vous me direz, chaque mot renvoie vers l'infini. Écrire depuis sa mort, il n'y pensait peut-être pas, mais tout ici résonne avec son trépas. Balloonerism, soit la philosophie du ballon, et c'est le visage de Mac Miller, 26 ans, à jamais, qui réapparaît comme peint et décomposé, le nez à l'envers, les yeux de travers, sur un ballon qui s'envole. L'album s'écoute un peu comme un trip, une fuite sans but. Produit avec le bassiste et producteur Thundercat, on y entend dès le premier long morceau une manière très diluée, très mouvante, qui fait apparaître par exemple son invité principal, la chanteuse SZA, au bout de 2 minutes 40. Mmh. Tu m'étonnes que l'artiste et la maison de disques à l'époque aient jugé ça un peu trop expérimental. Écoutez ce duo ralenti avec SZA qui lui dit « Je sais que tu es debout depuis 3 jours sans dormir, je sais que ta vie d'avant te manque, dis-moi la vérité sur ça. » Tell me the truth about it. Tell me the truth about it. Tell us the truth about it. Cocaine is ruthless. I know the truth about it. Cocaine is ruthless.
Mac Miller est un hip-hop sous influence comme un trip psychédélique.
Oui, plus que jamais, le rappeur mélange les genres et les récits d'expériences de substances, du jazz halluciné au rap sous opiacé. Dépression et addiction étaient déjà les thèmes principaux de ses chansons. Pourtant, au moment où il enregistre ses morceaux, c'était en 2014, Mac Miller nageait en plein succès. Tortueux et pourtant lumineux. Ce disque, dont c'est important, les collaborateurs assurent qu'il n'a pas été trafiqué ou transformé depuis, mais il s'écoute à l'ancienne, comme un album, comme un livre entier, avec un final qui dure presque 12 minutes. D'ailleurs, le titre devrait faire un écho pour les fans des Beatles. Tomorrow we'll never know. Rêvent-ils comme nous? Ont-ils les mêmes sentiments que nous? Est-ce qu'ils aiment comme nous? Dernier tour avec Mac Miller. Qui sait? En attendant, on continue de l'écouter.
said it ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. She don't know. She slept through the future and missed it. It was yesterday. So we right back where we started. She's still trying to get away. Girl, you're wasting my time. And I am wasting your time. But that's okay. Going crazy, keeping all of these secrets. How was that living? Every time I reminisce, I keep thinking it was better then. I remember we made out underneath the rain clouds. Stay out late, I wanna lay down. Break ground, then you tell me. We could be okay, don't know for sure. Just familiar numbers hammered to your door. You left home right away. Your life is like night and day. You keep going, going back and forth. Let me give you what you want.
Mac Miller dans la playlist de Mathieu Conquet. Merci Mathieu pour cette playlist. Et après la disparition de Marianne Faithfull, émission spéciale ce soir à 21h avec vous. 5h41 sur Inter avec un premier zoom. On parle de l'autre procès Pellicot. Dominique Pellicot, l'accusé principal du procès des viols de Mazan, condamné à 20 ans de prison pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme Gisèle par des dizaines d'hommes. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
De la cellule avec investigation de Radio France. Dominique Pellicot n'en a pas fini, Julie, avec la justice. Il va être entendu aujourd'hui par un juge d'instruction.
Oui, Dominique Pellicot doit être extrait de sa cellule et escorté jusqu'à Nanterre pour être entendu par la juge Nathalie Turquet du pôle Cold Case, spécialisée dans les affaires non élucidées, qui a mis en examen Dominique Pellicot pour le viol et le meurtre d'une jeune femme, Sophie Narme. C'était en 1991.
Une jeune employée d'une agence immobilière violée et tuée en faisant visiter un appartement à Paris.
C'est le patron de l'agence immobilière qui découvre à l'époque le corps, raconte Florence Rau, l'avocate de la famille de Sophie Narme.
L'appartement est dans le noir, bien sûr. Il est tard et on est en hiver. Il va chercher la lumière. Il va à tâtons. Il commence vraiment à s'inquiéter parce qu'il y a une très forte odeur d'éther dans l'appartement. Et quand il est clair, là, il tombe sur la scène de crime et c'est une scène d'épouvante tellement c'est sauvage et violent.
Sophie Narme a donc été endormie à l'éther avant d'être tuée. C'est un point important. Ce policier a été envoyé sur la scène de crime. Nous avons fait lire son témoignage.
Je me souviens d'un corps sans vie au milieu d'une pièce vide. Le patron de Sophie Narme a été un temps soupçonné parce qu'il avait découvert le corps, mais il ne nous avait pas appelé tout de suite. C'était une fausse piste. Dans cette affaire, on a vraiment joué de malchance.
Malchance parce que quand le corps de Sophie Narme est autopsié peu après sa mort, du sperme est prélevé, rapport sexuel récent, conclut l'expert, sauf que ce prélèvement, il va disparaître. L'ADN a été perdu.
Dominique Pellicot entendu hier donc. Et alors, Julie, s'il n'y a pas d'ADN, pourquoi Dominique Pellicot a été mis en examen ?
Dominique Pellicot, il a été dans sa vie agent immobilier et son ADN a été retrouvé sur une autre scène de crime qui ressemble beaucoup à celle de Sophie Narme. Nous sommes cette fois en 99. Une jeune femme que l'on va appeler Marion est victime d'une tentative de viol en Seine-et-Marne. Elle aussi est agent immobilier. Elle aussi est agressée par un faux client pendant la visite d'un appartement. Elle aussi avec de l'éther. Mais elle parvient à s'échapper.
Et Dominique Pellicot est également mis en examen dans cette affaire.
Oui, même si, malgré l'ADN, il nie la tentative de viol et en fait, il lâche très peu de choses face aux enquêteurs, comme l'explique cette source proche du dossier.
Il y a des profils comme ça qui disent « bah, dites-moi ce que vous avez et puis je ferai ce que j'ai à vous dire ». On a visiblement affaire à ça. C'est un mur.
Ce que dit Dominique Pellicot, c'est que oui, il a agressé Marion, il a voulu l'endormir, mais il dit qu'il voulait juste la regarder. Il parle même à un moment de viol visuel. Et pour le meurtre de Sophie Narme, où il n'y a pas d'ADN, il nie en bloc, explique son avocate, Béatrice Zavaro.
Il m'a dit, mais je vous jure que je n'ai rien fait et je ne connais pas cette jeune femme. Et j'ai tendance à le croire. C'est peut-être un peu naïf, vous allez penser que je vis un peu dans le monde des bisounours, mais je commence à connaître cet homme et je commence à savoir quand il dit vrai et il dit faux.
Mais les deux scènes de crime sont tellement semblables et cet éther, c'est tellement particulier que Dominique Pellicot est longuement interrogé là-dessus par un policier lors de sa garde à vue en 2022. Écoutez cet extrait que nous avons fait lire.
Monsieur Pellicot, avez-vous tout simplement entendu les médias évoquer des affaires criminelles ou délictuelles dans lesquelles les victimes auraient eu des pertes de connaissances liées à l'usage de l'éther ?
Non.
Je suis d'accord avec votre réponse, ce ne sont pas des affaires courantes, elles sont même plutôt rares, voire très rares. Qu'en pensez-vous ?
Je n'en pense rien. Je sais qu'à une époque, on endormait les gosses avec l'éther. Mon père utilisait l'éther pour endormir les chiots avant de les tuer.
La question maintenant, c'est de savoir ce qui va se passer dans le bureau de la juge cet après-midi. En parallèle, d'autres pistes sont étudiées par les enquêteurs. Il y a l'agression d'une autre femme, agent immobilier, en 2004, que nous vous révélions hier, une femme de 60 ans. Et puis l'agression d'une enfant de 12 ans à l'éther en 1995.
Le Zoom de Julie Pietri. Votre enquête, Julie, est à écouter en longueur avec des témoignages inédits demain à 13h20 dans l'émission Secret d'info.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Il est 5h46. On va prendre un grand bol d'air avec notre invité déjà debout. Bonjour Julie Legros.
Bonjour à toute l'équipe de France Inter.
Vous êtes en Haute-Savoie, directrice de l'Office intercommunal de tourisme Léman Mountains Explore, je le dis bien ?
Ah, c'est parfait.
Alors pourquoi vous êtes déjà debout à cette heure-ci, si tôt ?
Alors, en fait, on gère beaucoup de choses à l'Office de tourisme intercommunal, notamment les 20 communes qui bordent le Léman jusqu'aux Préalpes dans la vallée d'Abondance. Et donc, c'est un horaire parfait pour gérer les plannings, voir si tout le monde est là, et puis préparer la journée.
Alors, effectivement, qu'est-ce qui regroupe votre office de tourisme ? Il y a à la fois la montagne, les bains aussi, il y a un peu de tout.
On a vraiment une offre très complète. On est sur les bords du lac Léman, donc en face de la Suisse. On a vraiment toute cette partie balnéaire qui comprend notamment Évian. Et puis quand vous montez, vous arrivez sur le plateau de Gavot, c'est l'impluvium des eaux d'Évian. Et quand vous remontez un peu plus haut, là vous arrivez sur les stations de ski. Vous êtes à Tholon, à Bernex, à l'Abondance, à la Chapelle d'Abondance et jusqu'au bout de la vallée d'Abondance, il y a Châtel.
Et donc c'est un cadre qui fait peut-être aussi de votre métier une passion ?
Alors, c'est vraiment un métier passion, oui, parce que finalement, on vend du loisir, du tourisme, mais on est bien souvent dans des espaces qui sont juste magnifiques.
Des domaines skiables, on le disait, des stations balnéaires, ça doit être l'effervescence, là, à l'approche des congés d'hiver.
Alors là, je ne vous cache pas que oui, on a eu un gros temps fort sur les vacances de Noël où on a eu beaucoup de neige avec deux semaines pendant où toutes les zones sont en vacances en même temps.
Oui.
Et puis là, on enchaîne donc là, c'est vraiment le sprint.
Voilà.
Et puis là, on enchaîne un vrai marathon, puisque là, on va faire 4 semaines, un peu plus avec les Belges qui sont déjà en vacances.
Voilà, c'est étalé avec les différentes zones et il y a aussi effectivement les Belges.
Exactement. Donc un peu moins de monde en simultané, par contre un vrai marathon, puisqu'il faut tenir maintenant jusqu'à la mi-mars pour faire plaisir à tout le monde.
Et il y a une trentaine de personnes pour gérer tout ça ?
On a 30 salariés, on a des saisonniers qui viennent d'un peu partout, qui sont animateurs, qui sont conseillers touristiques. Et puis on a aussi évidemment des fonctions au marketing, à la commercialisation, pour gérer les hébergements. Et puis des métiers qui s'amusent aussi beaucoup, comme la comptabilité.
À quoi elle ressemble une journée type chez vous ?
Donc là, l'idée, c'est de gérer un peu, de voir qu'il n'y ait pas d'absents, de gérer un peu l'ouverture de tous les bureaux d'information touristique. On en a pas mal sur le secteur. Et puis ensuite, moi, je vais partir dans les différentes stations villages pour régler les derniers ajustements au niveau de l'animation, de l'événementiel, voir si tous les groupes sont bien réservés et que les feux d'artifice sont prêts.
Et voir l'enneigement, évidemment. Est-ce que vous faites comme beaucoup de stations, est-ce que vous commencez à penser l'après-ski, après réchauffement climatique ? Je crois que vous avez intégré même un programme spécial.
Oui, voilà, au niveau du massif alpin, on est au cœur des espaces valéens. On réfléchit un peu tous les jours à la montagne de demain, autour de grands projets. Donc une diversification qui est tout à fait indispensable. Alors on a beaucoup de stations qui ont déjà pris le pas avec des activités connexes comme de la luge quatre saisons ou encore des balades avec des ânes en plein hiver. On a vraiment nous une destination qui s'y prête puisque finalement quand le niveau d'enneigement est pas optimal ou simplement que c'est un jour blanc, on peut aller faire une croisière sur le lac Léman, on peut aller se baigner, on peut aller au bain, au terme.
Faire du snook. C'est quoi le snook?
Et faire du snook. Donc c'est une sorte de toute petite luge sur laquelle vous êtes assis avec un monoski et vous pouvez descendre comme ça.
Ça faut de la neige quand même alors.
Peu ou pas enneigé, ça fonctionne quand même. Mais en tout cas, vous pouvez aller sur des zones qui sont pas forcément des zones avec des remontées mécaniques. Donc, vous pouvez aller vous balader dans d'autres secteurs pour profiter de la neige.
Et donc, effectivement, c'est peut-être ça, l'avenir de la montagne. En tout cas, vous y travaillez. Et puis, pour l'instant, il y en a de la neige ?
Alors, pour l'instant, on est vraiment sur des conditions idéales. Il a reneigé il y a 48 heures. Les domaines sont très bien enneigés, très bien entretenus aussi, parce que ça compte beaucoup. Les équipes sont vraiment à pied d'œuvre pour préparer les domaines. On est vraiment sur une belle saison, oui.
Eh ben, bon courage à vous pour la préparation. Julie Legros, directrice de l'Office intercommunal Léman Mountains Explore. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce matin sur Inter. 5h50, les réponses à toutes les questions des grands et surtout des petits. C'est dans les petits bateaux avec Camille Cronier et ses invités aujourd'hui. Marc et sa question à ne pas forcément écouter si vous êtes en plein petit déjeuner. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, bouchez-vous le nez, ça va sentir mauvais.
Bonjour, c'est Marc et j'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive dans les égouts à Paris. Et où ça va ensuite ?
Eh bien, à ton service, mon cher Marc. Sabine Barle, chercheuse en urbanisme et même spécialiste de ce qu'on appelle le métabolisme urbain, est là pour te répondre.
Eh bien, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les égouts à Paris et dans beaucoup de villes d'ailleurs. Bah, déjà, arrive dans les égouts toute l'eau que nous avons consommée dans la maison. Donc, elles viennent de notre évier, du lavabo, de la douche, de la baignoire ou des toilettes. Mais arrivent aussi toutes les eaux qui sont utilisées dans tous les bâtiments, les eaux qui sont utilisées dans la rue pour la nettoyer, et puis les eaux de pluie qui ruissellent à la surface du sol, dans les caniveaux, et puis qui sont avalées par les bouches d'égout. Alors, toutes ces eaux, elles sont réunies.
Elles arrivent toutes au même endroit.
Voilà, elles arrivent toutes au même endroit, dans un grand tuyau. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à Paris, on pratique le tout à l'égout, puisque toutes les eaux vont dans le même tuyau. Et alors, en langage technique, on appelle ça le réseau unitaire. Ce tuyau, il est très grand, plusieurs mètres de largeur, surtout quand on s'éloigne de la ville. Puisqu'en fait, un réseau d'égouts, c'est un peu comme un arbre. Il y a une petite branche, puis une branche plus grande, puis plus grande, puis plus grande. Et puis à la fin, il y a comme un tronc qu'on appelle un émissaire. Et ces eaux, elles sont amenées dans une station d'épuration.
Elle est où ? Alors, si on prend la question de Marc, il demande à Paris. Elle est à la sortie de Paris. Il n'y en a qu'une pour tout Paris ?
Alors, à Paris, il y a une station d'épuration principale, celle où vont quasiment toutes les eaux de l'agglomération parisienne, même s'il y en a quelques autres ailleurs. C'est la station d'épuration d'Achères, qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres de Paris, au bord de la Seine. Et qui a une capacité de traitement d'environ 7 millions d'équivalents habitants, c'est-à-dire la pollution équivalente à 7 millions d'habitants. Donc c'est une installation énorme. Et donc dans cette station d'épuration, eh bien, on va traiter les eaux de façon à rendre à la Seine une eau qui sera non pas pure, mais en tout cas une composition qui, en théorie, la rend non nuisible pour la Seine. Mais en aucun cas, c'est une eau qu'on va mettre dans un tuyau d'eau potable, parce qu'elle n'est absolument pas potable.
Donc si Marc ferme les yeux, il faut imaginer, sous la ville de Paris, plein de tuyaux dans tous les sens qui arrivent à un gros tuyau. Là, on nettoie, et je mets plein de guillemets à nettoie cette eau-là, et hop, elle repart dans la Seine.
Voilà, mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que dans une station d'épuration, on produit des boues d'épuration. Et ces boues d'épuration, bah, elles contiennent une partie des matières polluantes qui sont contenues dans les eaux d'égout. Et on est obligé de les traiter, elles aussi, de façon à, après, par exemple, les utiliser en agriculture sous forme d'engrais. Et puis, il y a encore autre chose, c'est que le tuyau d'égout, il est très grand pour pouvoir contenir beaucoup d'eau de pluie, mais il y a des fois où il pleut tellement qu'il se remplit.
Et donc ça déborde.
Alors non, on essaye de faire en sorte que ça ne déborde pas dans les rues, parce que ça serait un petit peu embêtant, surtout qu'il y a du pipi et du caca dedans. Mmh. Et donc, il y a un dispositif qu'on appelle le déversoir d'orage, qui fait que quand il y a trop d'eau dans l'égout, eh bien, il se déverse directement dans la Seine.
Sauf qu'il y a maintenant un grand bassin de stockage de cette eau, construit exprès pour les JO. Salut les matelots.
Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli Radio France.
Salut Camille Cronier, vous revenez juste après le flash de 20h.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est l'heure de prendre un café philo avec Patricia Martin, bonjour.
Bonjour Marion Lourd.
Réconcilier nature et liberté, vaste programme, c'est votre sujet ce matin.
Oui, la nature, une source de joie, d'intérêt, de préoccupation aussi, hein, et ce depuis fort longtemps. Mm. De quoi remplir des livres, de quoi inspirer nombre d'écrivains. George Sand, écoutons ce poème intitulé « À Aurore ».
La nature est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit, tout ce que l'on sent en soi-même. Elle est belle pour qui la voit, elle est bonne à celui qui l'aime. Elle est juste quand on y croit et qu'on la respecte en soi-même. Regarde le ciel, il te voit. Embrasse la terre, elle t'aime. La vérité, c'est ce qu'on croit en la nature, c'est toi-même.
George Sand, considérée comme une authentique pionnière, hein, ça c'est le botaniste et paysagiste Gilles Clément qui le dit, George Sand, dont le philosophe Gaspard Koenig dit qu'à sa façon, c'était aussi une philosophe.
Gaspard Koenig qui vient de publier un essai intitulé « Agrophilosophie ». Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce terme, Patricia ?
Alors, l'agrophilosophie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Marion, c'est une façon de réconcilier nature et liberté. Pas mal de philosophes ont envisagé la nature chacun à sa façon. Hein. On peut penser à Socrate, à Locke, à Rousseau, à Kant. Gaspard Koenig passe en revue leur conception tout en y apportant la sienne. Aujourd'hui, on parle de donner des droits à la nature. Eh bien, c'est une mauvaise manière de résoudre une bonne question, écrit-il. Sur ce sujet de la nature, l'anthropologue Philippe Descola.
Pessoa l'a dit fort bien, oui, la nature comme une totalité n'existe pas. La nature, c'est quelque chose que les Européens ont inventé à un certain moment, et cette expression que j'évoquais, une maladie de nos idées, c'est peut-être ça ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire l'idée que cette totalité dont les humains se sont séparés, lorsqu'ils ont conçu la nature comme une totalité. Ce mouvement a engagé, induit une façon d'être au monde tout à fait singulière qui a commencé à se développer à partir du 15e siècle dans les images et un peu plus tard dans les textes, à partir du 17e siècle dans les textes, et qui constitue au fond l'essence même de la modernité. C'est pour ça que nous sommes modernes, c'est parce que nous pensons que la nature existe.
Et la nature pourrait n'être qu'un concept, une abstraction. Vous y reviendrez dans l'heure philo ce soir. Gaspard Koenig sera votre invité. Son livre, on le rappelle, il s'appelle « Agrophilosophie » et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Et puis avec lui, vous recevrez aussi Monique Mosser pour un livre co-écrit avec Gilles Clément, « Inventer le jardin », publié au Seuil. À ce soir.
À ce soir, cher Marion.
20h10.